Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Monsieur Gilbert David, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Pierre Joly, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes membres administrateurs également de la Ligue protectrice des oiseaux, mais au-delà aussi et de la faune.
Et de la biodiversité.
Et de la biodiversité, plus précisément. Vous êtes ici pour nous parler aussi d'une campagne qui permettrait d'assister et de sauvegarder des espèces en voie de...
Oui,
D'extinction.
En voie de disparition. Ça dépend desquelles espèces, mais enfin, les espèces ne manquent pas, hélas.
Et pour cela, ça se résume principalement sur la Drôme ou alors même pour toute la région ?
Alors c'est sur toute la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est une autre association de la LPO et c'est une association régionale, donc Auvergne-Rhône-Alpes.
On peut peut-être faire un rappel historique de cette association ?
Oui, eh ben, nous, localement, on a un groupe local justement sur la LPO, sur le Diwa. Donc, je suis animateur bénévole avec Hélène Bernard. Et donc, Pierre en fait partie aussi. Et nous œuvrons surtout principalement pour la défense du vivant, donc de la biodiversité, en agissant spécialement sur l'oiseau, mais pas que, sur toute la faune sauvage, puisqu'on fait des inventaires aussi sur la loutre, sur les chamois, et plein d'autres choses. Donc on ne s'occupe pas que des oiseaux, mais bien de toute la biodiversité qui fait, donc c'est intégrante, l'homme compris d'ailleurs, parce que dans notre statut, la LPO agit pour l'oiseau, la faune sauvage et l'homme. Parce que en fait, tout est lié, donc on ne peut pas dissocier l'homme de la biodiversité, bien évidemment.
D'ailleurs, qu'est-ce qui a permis de mettre en place cette association ? C'est un constat qui s'est révélé depuis quelle époque ?
Alors, la LPO, c'est une très vieille association, parce que c'est au début du siècle dernier, donc dans les 1900 et quelques, là, où on s'est aperçu qu'il y avait des massacres de macareux. C'est pour ça que l'emblème de la LPO, ce sont deux petits macareux. Et qu'on faisait vraiment des grands massacres. Il y avait des personnes qui venaient de Paris en train. C'est avec le développement du train, d'ailleurs, que ça s'est fait. Et qui sont venus en Bretagne pour massacrer mais par milliers des macareux. Et le macareux a été en train de disparaître. Donc c'est la LPO a été créée pour sauver ces macareux. Et puis, petit à petit, elle s'est généralisée, elle a monté en puissance. Maintenant, on a 13 000 membres en Rhône-Alpes et plus de 60 000 au niveau de la France, quoi. Donc, on agit sur toute la France et sur toutes les espèces sauvages.
Par rapport à cette anecdote bretonne, est-ce qu'il y a des similarités qu'on peut retrouver aussi aux régions Rhône-Alpes ?
Alors, bien sûr, il y a plein d'autres espèces qui sont en voie de d'extinction. On pense aux lagopèdes. Mais là, il y a un rapport aussi avec le changement climatique. Il y a le tétralyre dans la Drôme qui est en train de disparaître et qui est pourtant toujours chassé. Ça, pour nous, c'est un vrai scandale. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont réapparues, qui sont revenues. Soit naturellement, soit réintroduite, comme le vautour fauve, qui est bien connu maintenant. C'est grâce aussi l'LPO a participé activement à cette réintroduction. Le bouquetin a été réintroduit aussi dans la Drôme. Et, bon, voilà, et bien sûr, dernièrement, c'est le gypaète qui se reproduit depuis 3 ans. Et c'est la la LPO qui, au niveau national, gère ces réintroductions de chipaètes.
Pierre Joly, vous êtes membre aussi. Vous avez une spécialité sur un domaine animal.
Alors, moi, je m'intéresse aussi, comme Gilbert, à toute la biodiversité. Mais pour des raisons d'histoire personnelle et professionnelle, j'ai travaillé dans le cadre de l'Université de Lyon, plus particulièrement sur les amphibiens, le comportement des amphibiens, leur écologie. Et mes recherches ont toujours été en lien avec la protection de la nature. Donc voilà, j'ai un peu cette spécialité-là de connaître un peu, d'avoir passé du temps sur ces problèmes d'amphibiens.
Vous avez agi également au niveau régional, vous avez eu des sujets importants à traiter.
Alors les amphibiens, c'est des animaux qui sont assez peu connus du grand public, qui ont une présence beaucoup moins spectaculaire que les oiseaux, parce que c'est des animaux assez secrets, qui ont une existence qui n'est pas très exubérante. Mais c'est des animaux qui disparaissent à toute vitesse. Et j'ai eu la chance, assez jeune, de me rendre compte qu'il y avait un problème de protection de la nature avec les amphibiens, que les amphibiens pouvaient être des sortes de symboles de certaines dégradations du milieu, en particulier de la disparition de leurs habitats. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un cadre universitaire, d'un point de vue de la recherche, sur les problèmes de dégradation de l'habitat à des très larges échelles, ce qu'on appelle l'échelle du paysage. C'est en même temps un problème scientifique fascinant d'essayer de comprendre comment ces animaux se retrouvent dans le paysage, savent s'orienter, savent se déplacer, savent migrer. Et il fallait en même temps comprendre ces problèmes-là, qui sont des problèmes de comportement, des problèmes d'orientation, les comprendre pour essayer de comprendre comment, en dégradant le paysage, en supprimant par exemple des haies, en installant des routes, des autoroutes, en construisant des zones industrielles, en asséchant des zones humides, comment on mettait en danger complètement la présence des amphibiens.
Les amphibiens, on peut en trouver à des altitudes variables. Est-ce que justement leur disparition est liée à cette... À l'altitude, c'est-à-dire est-ce que des batraciens disparaissent plus dans les vallées que sur les hauteurs ?
C'est surtout dans les vallées. Hein. La disparition des amphibiens est liée à l'intensification des activités humaines. Et c'est évidemment dans les plaines et dans les vallées que les activités humaines s'intensifient avec l'industrie, avec le développement des réseaux routiers, autoroutiers. On a moins ces problèmes en montagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en montagne. Il y en a quand même. Par exemple, l'augmentation du rayonnement ultraviolet, qui est due à la diminution de l'épaisseur de la fameuse couche d'ozone, dont on ne parle plus beaucoup maintenant, mais le problème est quand même existe encore. Par exemple, pose un problème aux amphibiens en accélérant et en permettant la propagation de maladies de la peau, qui sont des maladies mortelles.
Il y a aussi la chaîne alimentaire. Est-ce que ça également impacte les espèces entre elles ?
Alors pour la chaîne alimentaire, les insectivores sont très pénalisés parce que justement avec les pesticides, avec les insecticides, y a moins d'insectes et donc ceux qui se nourrissent d'insectes sont évidemment pénalisés et sont en déclin. C'est surtout dans les milieux agricoles, mais aussi forestiers, où il y a une perte de biodiversité et qui peut aller jusqu'à 60% d'une espèce qui disparaît. Pour le bruant jaune, par exemple, c'est une espèce qui est en train de disparaître très, très rapidement. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a tout d'autres. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont plutôt en augmentation. Et là, on pourrait citer le piquet-pêche, par exemple, ou le troglodyte, qui sont des espèces qui sont plutôt en augmentation, parce que le milieu leur convient mieux. Mais voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Mais enfin, il y a beaucoup plus de problèmes de déclin d'expansion et d'augmentation.
Est-ce que la notion de migration hein, de ces animaux qui puissent se retrouver sur des terres propices à leur existence est une constatation qui a toujours été observée depuis quelques siècles, ou alors est-ce qu'il y a eu une accélération ces dernières décennies, par exemple ?
Il y a clairement une augmentation, une accélération du déclin des espèces. Hein. Là, on a fait des études, par exemple, sur 75 espèces qu'on a étudiées plus particulièrement. Sur ces 75 espèces, il y a 24 espèces qui sont en déclin, voire très fort, pour 11 espèces qui sont en augmentation. Et les autres espèces, il y a une quarantaine, où le statut n'est pas encore très bien défini, parce que peut-être moins bien connu. Voilà. Donc, c'est au niveau régional, mais au niveau national, c'est parfois pire, quoi.
Il y a cette notion du silure, par exemple, qui ravage les rivières, semble-t-il, et qui est un poisson d'Europe centrale qui a été amené sur nos rivières et qui décime justement les espèces. Est-ce qu'il y a des cas similaires ? Je crois qu'il y a aussi cette tortue de Floride hein, qui impacte aussi dans le sud-ouest de la France. Est-ce que ça s'est étendu aussi ? Est-ce qu'il y a, on peut observer également des observations, des changements radicaux de comportements ou d'espèces qui apparaissent sur des territoires et qui bouleversent un peu aussi ces aspects de disparition.
Oui, alors le problème que vous soulevez, là, c'est le problème qu'on appelle le problème des invasions biologiques. C'est pas tout à fait le même que celui de la dégradation des habitats dont Gilbert vient de parler. Alors, il est vrai que les humains, au XXe siècle particulièrement, ont énormément transporté d'espèces, et ça continue. Alors, ça peut être des espèces animales ou végétales, mais c'est aussi le cas des microbes. Hein. C'est pour ça qu'on voit des pandémies se développer. Alors, je ne connais pas bien le problème du silure, mais le problème de la tortue de Floride, nous l'avons... J'ai participé étroitement à des études là-dessus. En effet, la tortue de Floride a un effet très négatif sur l'espèce patrimoniale. Quand on dit patrimoniale, ça veut dire qui est autochtone, ancienne, qui est la cistude d'Europe. Et l'introduction de la tortue de Floride entraîne assez rapidement la raréfaction de la cistude, parce que cette espèce américaine, la tortue de Floride, est très agressive et elle élimine par une action directe d'agressivité, de compétition. On parle de compétition agonistique, c'est-à-dire quand il y a vraiment une agressivité directe des individus les uns sur les autres, et pas seulement une compétition alimentaire. Voilà. Donc, des problèmes comme ça, on en a beaucoup, hein, des problèmes d'introduction. Pour les amphibiens, par exemple, il y a eu l'introduction de la grenouille américaine, la grenouille taureau, dans le sud-ouest de la France. Au début, c'était une plaisanterie, quelqu'un qui a voulu faire une farce en ramenant cette grenouille des États-Unis et en l'installant chez son voisin. Et à partir de là, elle est en train d'envahir une grande partie du pays.
Oui. Pour le silure, le problème, ça a été, enfin le problème, c'était la liaison entre le Rhin et le Rhône. Il y a un canal qui s'est fait, et donc le silure est venu par ce canal-là, si on peut dire.
Et puis, votre mission, c'est d'observer aussi la nature, d'en rapporter les observations sur certainement des documents qui est accessible au public également. Et est-ce que aussi il y a une oreille des États sur vos observations pour diriger des politiques de préservation ?
Alors, la LPO agit sur trois points particuliers. Il y en a bien d'autres, mais enfin, c'est trois principaux. C'est sur la connaissance. Donc, on fait des études pour connaître l'état des populations. C'est ce qu'on appelle, au point de vue national, le stock, suivi temporel des oiseaux communs. Et c'est donc tout un maillage d'observateurs avec un protocole très particulier, très, très fort, qui est en lien avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On fait donc ces observations et on les communique. Et comme c'est le même protocole pour tout le monde, c'est comme ça qu'on peut savoir si une espèce est en augmentation ou en diminution. Ça, c'est sur le long terme. Ça date d'une trentaine d'années, même plus. Ça, c'est donc la connaissance. Mais là, dernièrement, on a fait un comptage chamois sur le Glandas, qu'on suit depuis 31 ans. Là, c'est la 31e année qu'on l'organise. On fait aussi des suivis petites chouettes de montagne, c'est-à-dire la Tegman et la Chevêchette, depuis un peu moins longtemps, mais sur le Vercors, ça date peut-être une petite dizaine d'années. Et sur le Diois, c'est un peu plus récent. Mais aussi, on fait des prospections aussi loutre, donc avec François Chenet qui chapeaute ce domaine-là. Voilà, et donc il le fait depuis qu'elle est là, pratiquement, donc une petite dizaine d'années. Et puis on prospecte un peu toutes les rivières, on essaye de retrouver les épreintes, c'est-à-dire les petites crottes ou les laissés. On étudie, il y a le castor qui est étudié aussi par Choisy. Donc il y a plein d'autres choses. Là, il y a l'Atarante, c'est un petit gecko là, qu'on suit aussi. Il y a les prospections aussi de reconnaissance de nids d'hirondelles occupées sur dix. Enfin voilà, on a beaucoup de chantiers à faire. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, la LPOS publie plusieurs centaines de rapports par an sur l'état de la faune en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est selon les cas, c'est publié ou pas, enfin selon les commandes quoi, qui ont été faites, si c'est départemental, régional ou local.
Par exemple, il y a des politiques d'infrastructure qui permettent de créer des routes ou des autoroutes ou des voies de chemin de fer. Et pour cela, est-ce qu'il y a obligation, en principe, d'étudier les terrains qui vont être accaparés pour ces projets ? Est-ce que vous êtes un référent dans ce domaine ?
Alors, l'ALPO est un référent assez fort pour ça, parce qu'on a une base de données qui est unique, on peut dire. Il n'y a pas d'équivalent. On a des millions de données d'informations avec la science participative. Tous les observateurs peuvent rentrer dans cette base de données qui est vérifiée par des observateurs. Et c'est une base de données qui est très importante et donc qui est une référence pour des études particulières d'implantation d'éoliennes, par exemple, ou autre chose. L'ALPO aussi a participé, donc ça c'est le deuxième point, c'est dans des actions concrètes. Par exemple, sur l'autoroute de Lyon à Valence, là, on a fait avec la société d'autoroute, on a étudié la fabrication d'un pont à grande faune, donc qui existe maintenant. On peut le voir, il est assez discret justement. Faut pas que ce passage à grande faune est très utilisé parce qu'on a mis des pièges photos, des caméras, et qu'on voit toute la faune qui passe. Et c'est extraordinaire. Ça part du Patracien jusqu'au cerf, quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est des actions qui sont assez concrètes. On participe aussi lorsqu'il y a des implantations d'éoliennes, qu'il y a des perturbations du milieu. On a créé dans le nord Drôme, par exemple, des mares à batracien. Donc Pierre pourrait en parler aussi, je pense. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions qu'on fait concrètement avec des entreprises, avec des carriers pour améliorer la biodiversité et augmenter toutes les espèces qui sont fragiles.
Alors, actuellement, la LPO propose une grande campagne d'information aussi, destination des particuliers, de la population, pour prendre conscience, pour faire prendre conscience de la difficulté, de la régression de certaines espèces. Et comment s'opère cette opération auprès du public ?
Alors, c'est une opération que vient de lancer la LPO Auvergne-Rhône-Alpes sur 6 espèces emblématiques qui un peu, on appelle ça des espèces un peu parapluies, si on peut dire. C'est-à-dire que si on protège ces espèces, on protège le milieu qui va avec et on protège toutes les espèces qui sont en dessous. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'espèces qui sont en mauvais état de conservation. Et là, cette action que propose la LPO, avec Hello Asso, donc si certains peuvent participer financièrement aux études, à la restauration, à la protection de ces espèces. On peut citer donc le busard cendré, qui est une espèce de plaine qui niche dans des cultures. Donc lorsque les cultures arrivent à maturité, comme le blé, on repère les nids, en collaboration avec l'agriculteur, évidemment. On balise un peu ce nid et la moissonneuse fait un détour en attendant que les jeunes puissent s'envoler à ce moment-là. Il y a aussi la pigrièche. Donc les pigrièches, il y a plusieurs espèces. Il y en a deux qui sont vraiment en très mauvais état de conservation. C'est la pigrièche grise et la pigrièche à tête rousse, mais aussi la pigrièche écorcheur qu'on a ici. Donc là, on essaye de préserver des haies, de replanter des haies. Donc là, ça demande un financement aussi. Après, il y a l'aigle de Bonelli qui est en Ardèche, qui niche en Ardèche, et qui est une espèce, un rapace rupestre, qui est vraiment très, très fragile parce qu'il y a très peu de couples reproducteurs, tout comme le percnoctère d'Égypte. C'est un petit vautour qui est presque aussi grand qu'un aigle royal, mais par rapport aux gypaètes, aux vautours fauves ou moines, qui sont une fois et demie de plus grand, donc c'est un petit vautour, mais qui est assez intéressant parce qu'il a, dans sa niche écologique, il mange les tendons, il passe après le vautour fauve et le vautour moine, et il mange les tendons et... Il y a toute une hiérarchie dans la... Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais après, il y a le gypaète qui, lui, mange les os, on appelle le casseur d'os, dont on fait la réintroduction en ce moment avec le parc du Vercors, dans le Diois et le Vercors. Voilà, donc c'est... Oui, il y en a d'autres. Il y a deux autres espèces, donc la loutre. Et la loutre, elle est arrivée il y a une dizaine d'années dans le Diois, là. Et c'est là qu'on la suit. Tous les premiers lundis de chaque mois, il y a François Chenet, donc un adhérent à l'ALPO, qui organise des prospections. Et c'est grâce à lui qu'on peut avoir une cartographie de sa présence un peu partout dans le Diois, quoi. Et puis, il y a le sonore à ventre jaune. Ça, je vais te laisser parler, Pierre, pour cette espèce qui est assez...
Le sonore à ventre jaune, c'est un des amphibiens qui se raréfie le plus vite en France et dans la région Rhône-Alpes, principalement par disparition des habitats et aussi par l'introduction presque systématique dans des milieux stagnants de poissons. On a une mode à l'heure actuelle qui est d'installer des poissons, des carpe-coï, des poissons rouges, toutes sortes de poissons dans toutes sortes de milieux. Et le résultat, c'est que beaucoup d'amphibiens en souffrent, et en particulier le sonneur à ventre jaune, qui est le plus sensible d'entre eux par rapport à ces problèmes-là. Voilà, donc la campagne de la LPO, outre la sensibilisation du public, elle pourrait se traduire par l'augmentation du nombre de sites protégés, donc ça veut dire sans poissons, et qui conviennent à cette espèce.
Est-ce que, à vous entendre, l'intérêt des animaux, c'est de ne pas connaître leur lieu d'existence?
Alors, je pense qu'ils connaissent très, très bien leur, lieu, leur biotope, qu'on appelle leur milieu de vie. Simplement, ils n'ont pas la même perception que nous. Et là, c'est, bon, c'est comme on dit, le meilleur spécialiste du percnoptère, ben c'est le percnoptère lui-même, donc, parce qu'il connaît bien son milieu. Sauf que si on le dégrade, si on fait... on atteint son milieu de vie, il se reproduit mal, ou pas du tout. Alors, le percnoptère, lui, c'est une espèce, c'est le seul vautour qui est migrateur. Donc, le jeune, quand il naît, donc là, c'est en Ardèche surtout, et dans le sud de la Drôme un peu, il part pendant 3 ans en Afrique. Donc, pendant 3 ans, on ne sait pas où il va. Là, on avait réussi à baguer un vautour en Ardèche, là, un percnoptère. Et il est revenu au bout de 3 ans et il s'est reproduit. Donc sa protection a bien marché pour cet individu-là. Mais c'est une des actions quotidiennes et répétées pour qu'on arrive à essayer de favoriser ces espèces-là. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des espèces qui peuvent aussi en protéger bien d'autres par sa protection propre.
Et ça, c'est aussi l'avantage de la LPO, c'est son implantation hein, sur la région, du point de vue de ses bénévoles qui sont... qui participent aussi à ces comptages hein, réguliers, et d'observation également, et peut-être aussi d'alerte sur des situations. Et alors, en cas d'alerte, de mise à mal d'un territoire pour une espèce animale, comment se procèdent les actions au sein de la LPO?
Alors déjà, pour les crapauds, on fait des actions dans le nord de Rome, le long des routes, parce que le problème, vous savez, c'est l'écrasement sur les routes. Donc, on met des filets le long des routes et on met des petits sauts de temps en temps. Donc, le crapaud ne pouvant pas traverser, il longe le filet, il tombe dans des sauts et le lendemain matin, on lui refait traverser la route artificiellement en les portant. Et il y a 2 ou 3 personnes de Châtillon-d'Ivoire qui se sont proposées de le faire aussi, juste à l'entrée de Châtillon, où il y a beaucoup d'écroisements. Et là, donc, la LPO leur propose des filets et des seaux. Et c'est les bénévoles qui vont faire le travail. Et c'est comme un peu partout, s'il n'y a pas de bénévoles, on ne fait pas grand-chose non plus. On a des salariés, mais... pas très nombreux, enfin, et puis ils sont très occupés, donc on se base sur nos bénévoles pour pouvoir faire des actions concrètes de protection par exemple, des crapauds, mais pas que, il y a plein d'autres choses qu'on en fait. On fait des nichoirs, on a fait des nichoirs à Arles-Bièvre, au bord de la Drôme, à Die, parce qu'on s'est aperçu que c'est une espèce qui est en train de revenir, et donc on veut essayer de la favoriser. Bon, pour l'instant, il y a de la reproduction.
Alors, la LPO, comme toute association, peut aussi se porter partie civile dans le cas de démarches juridiques.
Voilà. Là-dessus, justement, est-ce que vous trouvez, depuis quelques décennies, et puis avec ces associations telles que la vôtre pour la défense de la nature, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée et qui s'opère toujours au niveau du pouvoir public sur certains problèmes, ou alors est-ce qu'il y aurait peut-être un tassement depuis quelques années?
Alors, le problème, c'est que on a beau faire de l'information, de faire des comptages et tout ça, je trouve qu'on n'avance pas très vite au point de vue juridique et puis au point de vue protection. En fait, là, je parlerai du tétralyre, par exemple, qui est chassé alors qu'il est en train de disparaître. Donc ça... pour la LPO, chasser une espèce en voie de, enfin, en mauvais état de conservation, c'est pas tolérable, quoi. Donc on fait des actions là-dessus. On a fait un appel à manifester. Et on a eu 31 000 signatures de gens qui ne trouvaient pas ça normal qu'on puisse chasser une espèce comme ça, comme le tétralyre, qui est l'emblème en plus du parc du Vercors, quoi.
À vous entendre, ce sont des remèdes très ponctuels. Hein. Vous parliez de cette situation de Châtillon avec les crapauds ou d'autres endroits. Est-ce que c'est un combat sans cesse, discret, voire invisible? Et pourtant, il y a certainement un beau bilan de ce que vous avez accompli.
Il y a beaucoup d'actions. Il y a aussi, il faut bien l'admettre, une prise de conscience à la fois du grand public et des pouvoirs publics. Mais on ressent très fort, et c'est une frustration importante pour nous, c'est qu'on a une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire que dès que les intérêts économiques sont en jeu, on a beaucoup plus de mal à aller au bout de certaines actions. Et c'est là notre problème, notre problème principal à l'heure actuelle, c'est de dépasser ce plafond de verre, c'est de faire rentrer les problématiques de biodiversité dans les politiques publiques, dans tous les domaines.
D'ailleurs, la Ligue protectrice des oiseaux, je pose la question à M. David ou à M. Joly, est-ce qu'elle attire toujours un public et aussi une équipe de bénévoles?
Oui, alors, pour rien que parler de l'ALPO, le groupe local d'Ivoix, là, chaque mois, on organise des conférences ou des interventions de personnalités. De personnes compétentes, sur un sujet particulier. Et à chaque fois, on a environ une cinquantaine de personnes qui viennent régulièrement. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes. Des fois, ça va jusqu'à 100 personnes. La salle Baumier, elle était archi-clombe pour certaines interventions. Pour un comptage chamois, on a eu 70 personnes, rien que pour assister à la présentation. Sur d'autres sujets, on était à peu près dans le même genre de personnes. Donc, en fait, il y a une demande d'information, de communication du grand public. Et donc, voilà, c'est dans ce rôle-là de sensibilisation que l'ALPO essaye d'intervenir pour essayer de faire avancer un peu cette protection de la biodiversité qui est pour nous importante et indissociable de l'humain.
Mais le nombre de membres actifs de la LPO, d'adhérents à la LPO, ne cesse d'augmenter. Ouais. Ça, c'est un point positif, parce que c'est très important dans les rapports de force. Quand vous êtes sur une action, il faut un rapport de force, et le rapport de force, il dépend évidemment du nombre de membres affiliés à une association.
D'ailleurs, en début de semaine, quelques associations de défense de la nature ont signalé des violences de la part de groupes d'agriculteurs à leur encontre. Est-ce que vous-même, vous ressentez cette tension croître avec les professionnels de la terre et votre vision?
Alors, heureusement que dans le Divois, je le ressens pas. Je sais pas si tu le ressens.
Je parlais au niveau de la région.
Dans la région, oui. Alors, c'est vrai que la LPO est souvent mise en cause comme FNE, la France Nature et Environnement, où il y a des locaux qui ont été saccagés d'ailleurs. On ne comprend pas bien parce que justement, pour ce Mercosur, enfin le Mercosur là, on était, me semble-t-il, sur la même longueur d'onde, parce qu'on était contre cette importation de viande qui détruit la forêt amazonienne et tout ça. Donc là, on était en plein dedans. Par contre, c'est vrai qu'on voudrait limiter les pesticides, les insecticides, et plutôt favoriser l'agriculture biologique, hein, qui est plus en accord avec la biodiversité et puis la durabilité de l'agriculture française.
Vous avez un site internet également, très richement doté, oui. Documenté, oui. Et aussi avec des conseils, hein, à l'adresse des publics, avec des idées fausses peut-être à corriger sur certaines préservations d'animaux. Donc, comment ça se passe justement, cet enseignement auprès du public pour préserver certaines espèces ?
Alors, on fait des opérations, ce qu'on appelle tournesol. C'est-à-dire qu'on est en lien avec un agriculteur bio, Sébastien Blache cette année, qui est connu un peu partout maintenant, et qui donc nous vend des graines de tournesol pour nourrir les oiseaux en hiver. Et puis on prend, je crois que c'est 1 ou 2 euros, pour favoriser l'agriculture biologique et la biodiversité dans les milieux agricoles. Ce qui marche très bien parce que en fait l'année dernière on a pu intervenir sur pas mal de fermes bio en général pour justement favoriser la reproduction des mésanges et des insectivores qui sont des alliés de l'agriculture. Cependant, il y a des études qui ont été faites aussi que sur le nourrissage. Au printemps, il faut arrêter assez tôt. Assez tôt pour que la reproduction, là il y a eu des études sur la mésange bleue par exemple, où il faut ne pas nourrir les oiseaux trop longtemps parce qu'après ça implique une perte de reproduction, bizarrement, surtout avec les boules de graisse qui sont avec des graisses animales, ça c'est très très mauvais pour la reproduction. Il vaut mieux des boules de graisse végétale avec une composition sans additifs particuliers et sans filets de plastique autour qui font que parfois les mésanges s'empêtrent dans ce filet en plastique et meurent de ne pas pouvoir se déplacer normalement, quoi.
Quels sont les prochains rendez-vous pour la Ligue protectrice des oiseaux ? On parlera surtout au niveau du DIWA, peut-être oui. Un peu au-delà.
Alors là, au mois de décembre, le 20 décembre, il y a Luc Garraud, qui est l'auteur de la flore de la Drôme, un gros pavé qui va intervenir. Je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure. Et qui viendra donc le 20 décembre à 18h. Alors c'est la salle Baumier. Voilà, donc j'invite les gens à venir l'entendre. C'est très intéressant parce qu'il va nous parler plus globalement de la flore, mais aussi de son milieu. Donc il parlera un peu de géologie, un peu de géographie, et un peu prendre en des espèces un peu de tous les milieux. Donc en plus, c'est un botaniste très compétent, évidemment. Ensuite, le 17 janvier, toujours à 18h, mais c'est à la salle Pau, normalement, salle polyvalente, il y aura une intervention de Philippe-Elisabeth Rivière sur les refuges LPO. Donc là, ce sera les refuges de biodiversité qu'on peut le faire tout un chacun, même sur son balcon, mais sur son jardin ou un terrain qui appartient. Le 14 février, il y a Jean-Michel Faton, qui est co-auteur de l'Atlas des libellules et demoiselles de la Drôme, donc un livre qui vient de sortir il y a un an ou deux. Et donc lui, c'est un grand spécialiste des odonates, des libellules, qui viendra nous parler aussi et qui nous fera, comme Luc, ils nous feront donc une intervention en salle, et au printemps, ils nous feront une intervention sur le terrain avec une sortie, voilà. Donc après, il y a peut-être Pierre qui nous fera une intervention.
Oui, une intervention justement sur les problèmes dont je parlais tout à l'heure, de paysage, du déplacement de la faune, avec comme conséquence au niveau de l'aménagement du territoire, des notions qu'on utilise bien maintenant dans les politiques publiques, comme la notion de corridor, la notion de tram vert, tram bleu, voilà.
À l'image des intervenants que vous avez cités, vous, Gilbert, David et Pierre Joly, qu'est-ce qui vous a amené à agir au sein de la Ligue protectrice des oiseaux ? Quel est le sentiment qui vous a amené au-delà de votre activité professionnelle?
Oui, moi, il y a 50 ans que je suis dans le Divois, 49 ans. Et j'ai été tout de suite intéressé par, les oiseaux, en fait, au départ. Au début, on avait très peu de piques noires, par exemple, alors que j'en entendais ailleurs. Et je trouvais ça bizarre. Et en fait, c'est lorsque les arbres commençaient à grossir que la population du pique noir s'est développée. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir ce rapport avec l'évolution aussi de la processionnaire des pins. Donc tout ça, ça m'a un peu éveillé un peu à l'observation de la faune et de la flore. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu... Puis j'ai rencontré des personnes très intéressantes au point de vue naturaliste. Et on a commencé à faire un groupe d'observateurs. Et voilà, comme ça, je me suis mis à la LPO.
Il y avait une culture de la nature au sein des populations aussi, que vous avez découverte. On peut parler de citadins qui arrivent à la campagne, qui ont une méconnaissance de ce qu'on peut trouver dans la nature. Est-ce qu'il y a eu aussi cette rencontre de deux mentalités différentes?
Alors, je n'ai pas fait d'études sociologiques, on voit bien que c'est les citadins qui viennent, il y en a qui viennent passer leur retraite dans le Divois, hein, il y en a de plus en plus. Il y a des personnalités qui sont très, très sensibilisées, très sensibilisées à la nature, et donc qui sont actives là-dedans. Mais il y a aussi des personnes qui ont toujours existé, qui ont toujours vécu sur place, qui sont aussi... Donc en fait, c'est pas simplement un problème de citadins ou d'autochtones, c'est simplement... est-ce qu'on s'intéresse à ce qui nous entoure ou pas, quoi.
Pierre Joly, vous-même, alors, qu'est-ce qui vous a amené?
Alors, moi, c'est curieusement, je suis venu à la protection de la nature et connaissance de la faune par la chasse. Parce que je suis une famille où on pratiquait la chasse. Et j'ai chassé, avec mon oncle en particulier. Et j'ai, de façon très jeune, j'ai été choqué sur le fait qu'on puisse tuer quelque chose de beau. Alors ça, c'est assez mystérieux pourquoi certaines personnes trouvent les animaux, la biodiversité, les fleurs, tout ça, les trouvent belles, et que d'autres n'ont pas cette sensibilité-là. Mais en ce qui me concerne, dès lors que j'ai eu cette perception de la beauté, je ne pouvais plus utiliser un fusil, mais un appareil photo. Et je me suis mis à me passionner de plus en plus, en grandissant à la nature, par... quelque chose qui n'était pas scientifique au départ, même si je suis devenu scientifique, mais si je dois chercher les racines de cette passion, c'est dans la beauté, dans l'aspect esthétique de la biodiversité.
L'émission touche à sa fin. Je vous remercie Gilbert, David et Pierre Joly de votre patience d'être venus sur Air d'Ivoire pour nous parler de l'actualité de la Ligue protectrice des oiseaux et notamment aussi sur ce financement par le biais de HelloSO. On peut peut-être rappeler une information là-dessus?
Oui, alors donc il y a cette action d'appel à dons qui est sur HelloSO. Si on tape sur Internet LPO, espèces en danger, on va tomber sur cet appel à dons. Alors, n'importe quelle somme est bienvenue, bien évidemment. Vous aurez toutes les informations sur ce site-là, quoi. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à participer à cet appel à dons. Merci à tous.
Pareil, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci bien. Beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Gorge, ouvre ta gorge rouge, gorge, viens. des ailes et vole ainsi au-dessus des moulins de la vie, 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 de la vie. Ta gorge rouge, gorge. Continue de chanter l'été, la gorge serrée. Ouvre tout grand les yeux à mille lieues au-dessus des moulins de la vie, 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 de la vie. Pour que tu puisses monter en haut de l'escalier du dernier des paliers alignés de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Ouvre ta gorge.